Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il imposer le pluralisme aux médias ? Ils n'étaient pas invités, mais ils ont réussi à forcer l'entrée. Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau ont finalement débattu jeudi dernier sur France 2 et France Inter avec 9 autres têtes de liste des prochaines élections européennes. Saisi en référé, le tribunal administratif de Paris leur avait donné raison quelques jours plus tôt au nom du respect du pluralisme. Cette décision, contestée ensuite par le Conseil d'État, crée un précédent. Peut-être, en tout cas, elle autorise désormais n'importe quelle formation politique à se tourner vers les tribunaux si celle-ci estime qu'elle n'est pas traitée médiatiquement de manière équitable. Les juges pourraient ainsi finir par se substituer à l'instance de régulation de l'audiovisuel, le CSA, lequel est pourtant là pour faire respecter les règles du pluralisme. À vrai dire, la question n'est pas nouvelle. Elle se pose à chaque période électorale désormais. Comment faire en sorte que les candidats soient traités de manière à ce qu'ils aient des chances identiques le jour du scrutin, tout en tenant compte du poids politique de chacun? Une quadrature du cercle d'autant plus difficile à aborder que les médias font l'objet d'une défiance de plus en plus forte du fait de leurs liens avérés ou supposés avec le pouvoir politique. Alors faut-il imposer le pluralisme aux médias ? C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Michel Léridon, bonsoir.
Bonsoir.
La dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, vous étiez directrice de l'information de l'agence France Presse. Vous êtes désormais membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous y présidez le groupe de travail Droits et libertés, pluralisme et déontologie. Pour discuter avec vous, Catherine Nail, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes la directrice de l'information de France Inter, ancienne directrice générale adjointe de TF1, vous y étiez en charge de l'information. Ça couvrait TF1, mais aussi une chaîne comme LCI.
Exactement.
Et puis notre troisième invité, Alexis Livrier, bonsoir.
Bonsoir.
Historien des médias, maître de conférences à l'Université de Reims. Je renvoie à l'ouvrage que vous avez publié au Petit Matin, c'était en 2016, « Le contact et la distance, le journalisme politique au risque de la connivence ». Alors, Michel Léridon, tiens, c'est avec vous que je voudrais commencer. Quand on est au CSA et qu'on est en charge du pluralisme, est-ce que ça oblige à regarder tous les débats politiques qui ont lieu, que ce soit à la télévision ou que ce soit à la radio ?
Ah ben écoutez, c'est la loi qui régit l'audiovisuel, c'est une loi de liberté de la communication. Il y a aussi une loi de liberté du conseiller du CSA. Mais effectivement, si on s'intéresse à la question, il est quand même conseillé de suivre un peu la question et notamment, bien sûr, de suivre les débats.
Vous avez suivi celui de jeudi dernier ?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Ça a également été votre cas, Alexis Lévrier. Alors vous, c'est historien des médias, donc là pour d'autres raisons, j'imagine que ça peut être intéressant en tout cas de regarder la façon dont s'organisent les débats politiques. D'autant que vous vous intéressez beaucoup au journalisme politique.
Bah oui, tout à fait. C'était un débat tout à fait passionnant, déjà en amont, parce qu'il y a eu toutes ces procédures, cet invité, puis neuf, puisqu'il y avait une réclamation de Yann Brossa et de l'UDI avec Jean-Christophe Lagarde. Et puis finalement, donc la décision du tribunal administratif cassée le matin du débat le 4 mai, France 2 et France Inter ont maintenu leur invitation aux 3 qui avaient été ajoutés par le tribunal. Donc on s'est retrouvé avec un débat à 12. Je dirais que c'était passionnant à suivre, non seulement le débat lui-même, mais tout ce qui a précédé.
Et tout ce qui a précédé, ça va faire l'objet justement d'une partie de notre discussion de ce soir. Bon, Catherine Nail, évidemment, comme co-organisatrice France Inter, France 2, évidemment, vous avez suivi ce débat. Je vais pas forcément vous demander si vous l'avez trouvé bon ou pas. Encore que, qu'est-ce que vous avez pensé justement du fait qu'il y ait 12 invités plutôt que 7 puis 9 initialement prévus?
C'est encore plus compliqué à faire exister, en fait, le débat. Déjà, c'est pas facile à 7, mais à 12, le débat, finalement, est un nom peut-être un tout petit peu usurpé. C'est-à-dire qu'ils ont pu s'exprimer sur un certain nombre de questions et parfois simplement, un tout petit peu débattre. Voilà.
Et parfois, débattre sans forcément s'écouter. C'est ce parfois-là que nous avons choisi comme extrait du débat de jeudi dernier.
Est-ce qu'on peut interrompre cette espèce de duo?
Non mais pardon, c'est très important parce que j'ai un petit peu de retard d'ailleurs.
On a un petit peu de chronomètre.
Vous devriez plutôt aller en parler à votre patron parce que Macron,
l'élection
est pas le garant des institutions et du pays.
Écoutez, attendez parce que là, pensez aux auditeurs. Là, il y a un moment donné où ça devient inaudible et vous le savez, ceux qui ont des grosses voix, c'est bien, tant mieux pour eux. Il faut donner la parole à tout le monde. Alors
Alors on va essayer, on
a un petit point de... Et pensez à vos électeurs, je suis pas sûr que ce soit avec la cacophonie que vous arriviez à les convaincre. Jordan Bardella, vous poursuivez s'il vous plaît et on déclenche bien votre chronomètre.
Voilà, on a entendu les deux animateurs, Alexandra Ben Saïd pour France Inter et Thomas Soto pour France 2. Alors on est un petit peu malhonnête, évidemment, on a choisi le moment où ça discutait le plus, où c'était le moins audible. Ça ne reflète évidemment pas ce qui s'est passé ce soir là sur les deux chaînes, Catherine Nel. Mais vous disiez donc ça aurait peut-être été mieux à 7. Comment est-ce que vous aviez sélectionné justement initialement les invités? C'était en fonction de quoi? De leur capacité à justement être audible, à débattre?
Simplement en suivant les critères préconisés par le CSA. C'est-à-dire que le CSA a des règles, Michel pourra en parler, mais où finalement la représentativité, le poids à la fois dans les sondages, dans les assemblées européennes ou nationales, ça dépend des élections, les résultats des dernières élections sont pris en compte. Et donc on pondère, je dirais, de manière équitable, le poids des partis. Donc selon ces critères-là, il y avait eu au départ 7 partis sélectionnés. Puis effectivement, comme vous le disiez, 2 ont posé réclamation, pas au tribunal administratif, directement auprès de la chaîne France 2, qui les a
intégrés. Donc Jean-Christophe
intégrés,
Lagarde,
exactement,
et puis le deuxième,
et pour le PC,
Yann Brossa.
Donc la chaîne France 2 a effectivement intégré ces 2 candidats tête de liste au débat, donc 9. Puis, ensuite, il y a eu l'épisode juridique où, de fait, il a fallu rajouter 3 pupitres. Puis, nous aurions pu enlever 3 pupitres, puisque le Conseil d'État casse la décision du tribunal administratif. Mais c'est le matin même, et le matin même, je trouve que, par honnêteté, pour le coup intellectuel, il était assez normal de laisser ces 3 candidats supplémentaires. Mais les règles, donc du coup, sont vraiment draconiennes et strictes. Alors, effectivement, vous le disiez, heureusement, ça n'a pas été cette cacophonie pendant 3h30, sinon on aurait perdu tous les téléspectateurs et auditeurs. Mais néanmoins, les règles sont de plus en plus strictes au fur et à mesure que le nombre de candidats se font de plus en plus nombreux sur un plateau.
En tout cas, au début, donc, ils étaient 7 prévus, puis 9, puis 12. Ils auraient même pu être encore davantage, parce qu'il y a des listes. Alors on verra bien si elles finiront par être constituées officiellement ou pas. Mais je pense par exemple à Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière. Il y a Urgence Écologique, qui est aussi une liste qui se présentera peut-être pour les élections européennes. Michel Leridon, en tout cas, est-ce que du point de vue des règles du CSA, ce débat était conforme à ce que vous préconisez, ou bien est-ce qu'il y avait quelques problèmes que vous avez identifiés?
Ah, le débat était tout à fait conforme et il y a quand même un élément important à ajouter. Il y a la question du pluralisme dont le CSA est garant et c'est quelque chose de tout à fait moteur et d'important et fondamental dans ses missions. Mais il y a aussi la liberté éditoriale. Donc ce qu'a dit le Conseil d'État en cassant la décision du tribunal administratif, il n'a pas dit il y a des gens qui n'ont rien à faire dans cette émission. Il a juste dit il y a la liberté éditoriale à la chaîne et aux chaînes de décider qui elles invitent. À charge pour elle quand même de respecter un pluralisme sur la durée. Et ça, c'est ce que le CSA préconise. Le CSA, et je pourrais y revenir, il y a effectivement des règles assez précises pour le pluralisme hors élection qui s'apprécient sur 3 mois, et puis pendant une période électorale sur les 6 semaines qui précèdent. Donc, il n'y a pas que le débat, parce que vous savez qu'aux dernières élections européennes, il y avait 27 listes. Donc, je ne pense pas personne ne fera jamais un débat à 27. Donc, c'est aux chaînes de décider comment elles s'organisent, si elles veulent inviter les gens le matin, le soir, en débat, sinon il n'y a plus de liberté éditoriale, et c'est quand même un point très important.
C'est que nous, sur France Culture, on a quand même diffusé un débat entre... Alors, c'était un petit peu différent, mais entre, d'un côté, Emmanuel Macron, et de l'autre, 65 intellectuels, qui, certes, ne réintervenaient pas ensuite, mais voilà, rien n'est impossible désormais.
Oui, absolument, mais c'est...
On ne sait jamais. Alexis Lévrier, il y a donc eu cette décision du tribunal administratif cassée par le Conseil d'État. Il y avait eu un communiqué, notamment de France Télévisions, qui disait que la décision du tribunal, la première décision, était une atteinte grave à la liberté de la presse. Sur cette question de la liberté éditoriale, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas forcément exactement le point de vue, on va dire, que Michel Leridon et Catherine Nel. Alors,
je ne veux pas me brouiller avec les deux autres invités, mais je pense effectivement qu'il y a deux impératifs un peu contradictoires et qui doivent être très difficiles pour les France Inter et France 2 face à un tel enjeu, parce qu'on est dans la période des européennes, il y aura très peu de débats de ce type, de concilier l'impératif démocratique d'un côté et l'impératif médiatique de l'autre. L'impératif médiatique, c'est qu'il faut de la lisibilité, il faut de l'écoute mutuelle, il faut de la clarté, il faut de la cohérence, et tout cela est beaucoup plus facile avec 6 invités ou 7 ou 9 qu'avec 12. Et l'autre impératif, c'est la démocratie. Ce matin, dans le dernier sondage, on voyait par exemple que la liste Génération de Benoît Hamon est à 3,5% et que la liste de Yann Brossat est à 2%. À ce moment-là, pourquoi avoir repêché, c'est une question que je vais pouvoir poser à Catherine Neil, pourquoi avoir repêché la liste du PCF plutôt que la liste de Génération? Là, il y a vraiment une question que je me pose qui... Pour moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait d'intervention politique, je ne pense pas du tout qu'il y ait la tutelle du pouvoir derrière tout ça, mais il y a des fantasmes. Vous parliez tout à l'heure du contexte très particulier dans lequel on est, de la défiance à l'égard de la presse. Cette défiance porte notamment sur le problème de la connivence, de la dépendance des médias à l'égard du pouvoir politique. Donc de ce point de vue-là, on est obligé, on est contraint, surtout sur un média public, à l'exemplarité. Donc voilà, question pour Catherine Neil, pourquoi Yann Brossat et pas Benoît Hamon?
Peut-être parce qu'il y a, ce sont pas seulement les sondages, Catherine Neil, justement,
non,
qui détermine
exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi la représentativité, mais même si on parle de sondage, si vous regardez le sondage qui est paru dans le Figaro ce matin, ce ne sont absolument pas les mêmes chiffres. Donc, du coup, il faut de toute façon regarder exactement la totalité des sondages pour apprécier. Mais c'est très difficile. On sait bien qu'il n'y a pas de cristallisation encore de ces élections. Donc, effectivement, à un moment donné, il faut faire une pondération sur un ensemble de choses et pas simplement les sondages. Mais vous avez raison, c'est un vrai débat. Pour le coup, un vrai, celui-là. Et on essaye d'y répondre avec nos armes. Moi, j'ai quand même si nous devons être sur le respect du pluralisme, nous avons tous des cahiers des charges et des chartes que nous avons signées, et des engagements auprès du CSA. Mais moi, j'estime qu'on a aussi un devoir par rapport aux gens qui nous écoutent. Celui de faire notre travail le plus clairement pour leur apporter un certain nombre de réponses à des idées, pour qu'ils se fassent justement un jugement à la fin d'un débat, d'une interview ou de toute autre forme de prise de parole. Et quand vous avez 12 personnes sur un plateau, bien sûr vous pouvez juger. Je pense que les gens, au terme du débat, ont pu se dire « Ah, peut-être, effectivement, celui-là, celle-là s'en sort mieux. Celui-là est plus clair, celle-là est plus à l'offensive sur tel ou tel thème. » Mais se faire une idée très précise de leur programme, vraiment, je ne suis pas sûre que nous y soyons arrivés. Et ça, c'est embêtant quand on fait du journalisme.
Bien sûr.
Si je peux me permettre peut-être d'ailleurs d'ajouter un élément qui justifierait le fait que Yann Brossat soit là en première instance, disons, et pas Benoît Hamon, c'est que le Parti communiste compte un certain nombre d'élus, compte des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, au Sénat. Pour Benoît Hamon et Génération, c'est plus compliqué parce qu'il y a un parti dont il vient qui s'appelle le Parti socialiste et qui est représenté par Raphaël Glucksmann. Il y a un éclatement en plus de l'offre politique aujourd'hui qui ne facilite pas les choses, Michel Léridon.
Absolument, c'est pour ça que la règle d'or, c'est l'équité. On ne parle pas d'égalité pure, dans le sens où il faut quand même tenir compte de la représentativité, comme le disait Catherine Neil, de chaque groupement, de chaque personnalité. C'est compliqué, parce qu'il y a eu une recomposition du paysage politique qu'on connaît tous, un éclatement, un émiettement de différents mouvements. Donc l'équité, elle se calcule effectivement avec ce dont on vient de parler, c'est-à-dire à la fois quand même la représentation dans les assemblées, là aussi bien au Parlement français qu'au Parlement européen, et puis les sondages, et puis aussi la dynamique de campagne. On voit bien que voilà, il peut y avoir aussi des listes qui organisent plus de meetings, etc., qui ont plus d'écho. Et donc c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver, et pour donner à ces formations la place qu'elles méritent en fonction de cette représentativité-là.
Est-ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Michel Léridon, est plus attentif à cette question de l'équité selon que le média concerné est un média de service public ou un média du secteur privé? Ou bien ce sont exactement les mêmes règles?
Les règles sont les mêmes pour tout le monde.
Parce que j'ai cru comprendre dans votre intervention, Alexis Lévrier, que vous considériez que le service public avait une mission ou comment dire des obligations supplémentaires en matière de pluralisme?
Il me semble qu'il a tout intérêt pour lui, dans la période que l'on vit, qui est à la fois celle d'une défiance à l'égard des médias, mais aussi de la part du pouvoir politique, d'une tentation de la défiance plus spécifique à l'égard de l'audiovisuel public. Rappelons que Emmanuel Macron, en off, alors il l'a un peu démenti, ça avait été rapporté par l'Express fin 2017, avait parlé de honte de la République à propos de l'audiovisuel public. Télérama avait un peu précisé ses propos, mais le terme honte était utilisé. Et très récemment, Gérald Darmanin a émis l'idée de supprimer la redevance, ce qui poserait un énorme problème de financement pour l'audiovisuel public. Donc c'est la question de la survie même de l'audiovisuel public qui est posée. Et moi je crois, et d'ailleurs, bon, je sais pas pour vous jeter des fleurs, hein, mais je pense que France Culture ou France Inter, qui ont de très bons chiffres d'audience, ont aussi une très bonne image parce qu'ils se distinguent, parce qu'on sait que lorsqu'on vous écoute, il y a une singularité, et à mon avis une exigence plus forte que dans les médias privés. Et c'est pour ça que vous avez fidélisé un public et que vous avez cette image positive. Donc je crois, si on regarde CNews, mercredi, ils font un débat à 6 chefs de parti. Ils ne prennent même pas les têtes de liste, mais parce que c'est plus vendeur, ils prennent les chefs de parti. Eux, ils peuvent se permettre ça, c'est un choix éditorial. Je pense que le service public doit se différencier de ce type de choix.
Est-ce que vous sentez cette différence-là, Catherine Nel, vous qui avez du coup cette double expérience du secteur privé avec TF1 et puis désormais avec Radio France à France Inter?
C'est vrai, et avec l'expérience d'un débat à 5 en 2017 qui avait conduit Nicolas Dupont-Aignan à faire appel devant le Conseil d'État, et il avait été débouté comme voilà. Le Conseil d'État a débouté cette année les trois plaignants.
Donc je rappelle les cinq participants, c'était Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen.
Moi je pense que l'information, le respect des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes est le même, quel que soit le média que l'on représente. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait mon métier. Mais je suis d'accord avec vous. Bien sûr qu'on doit avoir cette exigence de rigueur, de qualité, de pluralisme. Mais ça ne signifie pas mettre tout le monde dans une même pièce, ouvrir les micros et les laisser parler. Ça signifie pour moi organiser la parole. Peut-être que Monsieur Asselineau sera plus audible, plus lisible, et que nos auditeurs se feront une meilleure idée de sa politique lorsque nous l'inviterons à 7h50 et qu'il sera interviewé par Alexandra Ben Saïd et pas avec 11 autres personnes, 3h30 de débat avec quand même un certain nombre de téléspectateurs, auditeurs, c'est bien normal, qui nous quittent au bout d'un moment et qui n'auront jamais entendu les dernières réponses. Donc,
pardonnez-moi Catherine Nel, cet argument-là, il peut être aussi valable pour n'importe quelle autre tête de liste, que ce soit Manon Aubry, Raphaël Glucksmann ou Nathalie Loiseau, non?
Oui, sauf que nous sommes encore dans un régime d'équité. Je pense que ce que Michel Léridon a dit et répété, c'est que nous sommes dans un régime d'équité. Notez quand même que dans le débat, nous avons non pas été dans un régime d'équité, mais d'égalité. Parce que dès l'instant où, pour le coup, nous les avons mis dans une situation, je dirais, dans un studio et à débattre tous ensemble, il fallait, pour le moins, qu'on ne soit pas dans l'équité, mais dans l'égalité. Mais sinon, nous sommes dans un régime, effectivement, d'équité. Donc, à nous aussi, de placer, je dirais, le curseur en fonction de ce que représentent ces partis.
Je vais revenir vers vous dans un instant, Michel Léridon, mais comment est-ce que vous expliquez-vous, Alexis Lévrier, que ces formats de débat avec autant de candidats soient à ce point populaires, disons, aujourd'hui? Il y a l'éclatement du jeu politique, mais il n'y a pas seulement ça. Si on se souvient, par exemple, de la présidentielle de 2002, il y avait beaucoup de candidats. Certains, d'ailleurs, s'en sont mordus les doigts, justement. qu'est-ce qui fait que c'est un format qui peut être intéressant, justement, aujourd'hui, pour les chaînes, que ce soit la télé ou la radio?
Il y a une culture du clash qu'on ressent dans toutes les chaînes d'information en continu. C'est un format qui fonctionne très bien à la télévision. Et il y a par ailleurs une soif d'égalité. Je pense que les Gilets jaunes ont représenté très, très fortement cette tradition française de la préférence pour l'égalité. Et du coup, les règles de l'équité dont vous parlez, que je comprends très bien, que vous expliquez très bien, mais sont un petit peu peut-être trop complexes. Il y a une tentation de l'égalité qui est plus forte et qui se prête bien en plus à ce clash. Moi, je trouve que l'émission de jeudi dernier avait quand même une certaine tenue. Alors, il faut féliciter. Ben oui, Alexandra Ben Saïd et Thomas Sotou ont bien joué leur rôle.
Non seulement vous voulez être invité sur France Culture, mais aussi sur France Inter.
C'est ça, je suis uniquement là pour cette raison. Non, mais je pense que c'est même sur ce format-là, on arrive à dire des choses. L'émission durait 3 heures, hein, c'est la contrepartie négative. C'est vrai que on est du coup sur une dilution des émissions qui nécessairement durent plus longtemps, mais on a entendu des choses. Et vous disiez, alors moi, ce que vous venez de dire sur le fait que Asselineau pourrait être invité le matin 7h50 sur France Inter. Hier soir, il y avait une émission qui était, enfin une rediffusion sur la chaîne parlementaire, tout à fait intéressante, d'un débat pour les premières élections européennes au suffrage universel en 1979. Et c'est vrai que sur Twitter, j'avais vu ces derniers jours beaucoup de gens qui disaient du bien de cette émission en disant c'est extraordinaire. Il y avait 4 intervenants et c'est vrai que c'était de grandes tenues, Georges Marchais, Jacques Chirac, François Mitterrand, Simone veille. Le problème, si vous voulez, c'est que j'ai regardé ça hier soir, les 25 premières minutes de l'émission sont consacrées à la question médiatique. Et avec tous les candidats qui regrettent l'absence des petites listes, et les journalistes, face à ça, disent la même chose. On va inviter les autres candidats aux 13h ou aux 20h, donc ils ne seront pas désavantagés. Mais en fait, ils ne sont pas présents dans le moment essentiel, qui est le moment de la confrontation des candidats.
Michel Deridon.
Moi, je qu'on s'entende bien, je suis pour le pluralisme et je pense qu'effectivement, il faut une visibilité. Je pense qu'effectivement, c'est pour ça que je disais qu'aussi bien dans le public que dans le privé, il faut les mêmes règles. On voit bien qu'on accuse beaucoup et sans doute à raison les réseaux sociaux, les plateformes, parce qu'elles vous enferment dans une bulle où vous, par le biais des algorithmes, vous recevez des contenus qui vous plaisent a priori et que donc il faut ouvrir le champ. On voit bien aussi la question de la visibilité et effectivement de certaines populations, c'est pas seulement des partis, mais de certaines populations qui estiment, et sans doute à juste titre, qu'elles ne sont pas assez visibles à la télévision. Donc ça, c'est pas à remettre en cause. Après, la question, c'est de savoir si tout le monde a le droit au même moment à être toujours, comme vous le disiez, sur tout un plateau, tous en même temps. Je pense qu'il y a d'autres formats et qu'en tout cas, c'est pas à la justice et pas au CSA non plus d'enjoindre, parce que c'est quand même ce que nous avaient demandé ces personnes, parce qu'en même temps qu'elles saisissaient la justice, elles nous saisissaient nous, elles nous enjoignaient, enfin nous demandaient d'enjoindre à France Télévisions et France Inter d'inviter. Je pense que c'est quand même très dangereux.
Alors, ce n'est pas effectivement le rôle du CSA, même si vous donnez des règles avec quand même l'idée que ces règles soient respectées par les chaînes qui sont sous votre autorité. Ce sont les chaînes de l'audiovisuel, il faut bien préciser, c'est la radio et la télévision. La presse écrite n'est pas soumise, pour des raisons qu'on comprend bien, à ces questions de pluralisme qu'on se pose ce soir, donc en compagnie de l'historien des médias Alexis Lévrier, de la directrice de l'information de France Inter, Catherine Neil, et de la nouvelle membre depuis peu du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Michel Deridon. On est dans quel type de règles actuellement, aujourd'hui, par exemple à France Culture, c'est-à-dire on est dans la règle du pluralisme, c'est ça?
Aujourd'hui, on est toujours dans la règle du pluralisme,
c'est pas
disons
encore
qu'aujourd'hui
la, c'est
on
n'est
pas,
encore pas la campagne,
dans la campagne électorale, donc c'est une règle en gros qui attribue un tiers du temps de parole à l'exécutif et deux tiers à toutes les autres formations politiques.
Exécutif, c'est donc le président de la République,
le gouvernement. Et leurs conseillers. Et ça s'apprécie sur un trimestre, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que c'est pas émission par émission, débat par débat, parce qu'il faut laisser le temps justement aux personnalités politiques de tourner et aux chaînes de s'organiser. Donc ça s'apprécie sur un trimestre. Et puis à partir du 15 avril, la semaine prochaine, vous avez un bon tempo pour m'inviter, et on entre alors là en séquence électorale, et là effectivement, on apprécie l'équité avec tous les temps de parole compris, tout ce qui concernera l'Europe, y compris la parole du président de la République, si elle concerne de près ou de loin l'Europe, sera mesurée en même temps que les formations politiques, donc en gros compensée par toutes celles qui ne seront pas celles de son parti.
Alors sur les règles actuelles, c'est vrai que c'est important de le dire et de le dire aussi aux auditrices et aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce à quoi nous sommes soumis dans les chaînes, Catherine Neil notamment. Alors par exemple sur cette question d'accorder un tiers du temps de parole à l'exécutif, donc président de la République, gouvernement et puis les conseillers du chef de l'État. C'est ce qui explique le fait qu'on entende par exemple autant de ministres dans les différentes matinales, que ce soit à la radio ou à la télévision.
Alors, ça n'est pas exclusivement pour ça. Il forme le gouvernement et c'est le président de la République. Donc, a priori, il y a un intérêt quand même aussi pour ce qu'ils font, pour les lois, pour les projets de loi, pour les décisions. Mais c'est aussi, effectivement, parce que nous devons respecter cette règle des trois tiers. Ce qui fait d'ailleurs que parfois, pour ceux qui restent, c'est-à-dire tous les autres partis, ceux qui ne sont pas dans l'exécutif, président et son gouvernement, on déséquilibre de fait un peu l'AREM, c'est-à-dire le parti majoritaire, parce qu'on a le sentiment d'avoir déjà beaucoup entendu le gouvernement, le président, et que on va avoir tendance à chercher plus des partis d'opposition pour essayer d'équilibrer. Mais néanmoins, les règles du CSA sont aussi de, à l'intérieur de ce grand ensemble des deux tiers, donc de ce qui reste, de pondérer les partis. Tous les partis ne se valent pas. Il n'y a pas une règle de l'équilibre parfait entre tous les partis sur ces deux tiers. Donc vous devez continuer à équilibrer entre les différents partis. Donc parfois, effectivement, je pense que nos auditeurs et nos auditrices doivent penser que on entend un peu plus une voix globalement majoritaire plus que l'opposition. C'est vrai.
C'est une vraie difficulté, ça, justement, Michel Leridon. C'est-à-dire qu'au nom de certaines règles du pluralisme, on peut avoir l'impression, quand on est à l'extérieur, que ces règles ne sont pas du tout respectées parce qu'il y a une partie de l'opinion qui est largement favorisée, qui est celle qui, disons, soutiendrait aujourd'hui l'exécutif et sa majorité parlementaire.
En l'occurrence, l'exécutif a toujours eu une espèce de prime en temps de parole du fait qu'effectivement, les ministres annoncent leur projet de loi, ont des mesures. Le gouvernement gouverne et il a un temps de parole. Après, il y a quand même un bon temps de parole pour les deux tiers sont pour les autres formations politiques. Dont
celle de la majorité. Quand même.
Voilà. C'est justement ce qui change à partir du moment où on entre en campagne électorale, où, comme je vous le disais, toute parole, notamment du président de la République, qui pourrait concerner l'Europe, sera pondérée par les autres listes et non pas celle, et non pas La République En Marche.
Cette pluralité, elle progresse quand même dans l'univers médiatique, Alexis Lévrier.
Je
pas remonter jusqu'aux années de Gaulle ou Pompidou, mais enfin, qui étaient des années qui n'étaient pas forcément connues.
Ah non.
Pour être dans l'audiovisuel public, en tout cas, des années d'une grande diversité.
Pompidou disait que l'audiovisuel public, c'était la voix de la France. Au moins, les choses étaient claires et l'ORTF a été créé par le général de Gaulle pour ça, c'est-à-dire pour vraiment...
Le général de Gaulle, vous avez dit ?
Non, justement. C'est un lapsus intéressant, mais ce n'était pas du tout le général de Gaulle. C'était bien le général de Gaulle en 1964, l'ORTF est créé. Et après, on a, moi, je pense quand même, hein, pour rassurer nos auditeurs, qu'il y a une longue conquête de l'indépendance de l'audiovisuel public vis-à-vis de l'État. Et d'ailleurs, la création du CSA a marqué une étape de ce point de vue-là. On parle maintenant d'un conseil de déontologie. Alors, est-ce qu'il va venir en plus ? Est-ce que ça pourrait être une fonction assumée par le CSA ? C'est pas tranché, mais on a ce sentiment que ça progresse. Mais il y a toujours, et c'est pour ça que, en fait, à chaque élection, il y a un fantasme qui est utilisé d'ailleurs par les leaders de l'opposition à chaque fois, et puis ils intervertissent leur rôle à mesure qu'ils changent. C'est de dire que les médias, notamment les médias publics, sont aux ordres du pouvoir. Et c'est ce que Benoît Hamon a dit là pour justifier son choix de passer par un tribunal administratif. C'est ce que on parlait de Nathalie Arthaud. Elle a fait une procédure. Elle met vraiment trop tardive pour que le tribunal administratif puisse statuer. Sinon, elle aurait peut-être été la 13e intervenante. Et elle a dit, c'est la preuve que les médias sont manipulés, qu'on ne veut pas de la voix de lutte ouvrière, la voix de l'extrême gauche en France. Donc il y a un calcul, une tentation, une volonté de la part des leaders de l'opposition d'utiliser cette réputation, cette longue réputation qui vient du XVIIe siècle, bien avant la création de l'audiovisuel public, l'idée que la presse en France serait un féodé au pouvoir politique. C'est aussi un moyen pour les leaders de l'opposition à chaque fois, et quelle que soit l'époque, de dire, regardez, on ne m'entend pas parce que les médias publics sont contrôlés par le pouvoir.
Michel Leridon ?
Oui, je voulais dire que oui, la plainte de Mme Arthaud a été jugée. Simplement, entre-temps, comme la décision du Conseil d'État avait été publiée, le tribunal administratif s'est repris les mêmes termes. Juste, puisqu'on fait un peu d'histoire, effectivement, le tournant en France, c'est 1986. C'est la loi, justement, qui met fin au monopole d'État sur l'audiovisuel, qui va privatiser TF1, qui va donner la voix après à la création de la 5, de la 6 et de toutes les chaînes privées. Et donc, qui, dès le premier article, parle de pluralisme. Donc, c'est effectivement absolument fondamental. Et je pense qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits dans ce domaine, parce que c'est une des missions principales, sa mission historique du CSA.
Et c'est d'ailleurs sur cette loi que s'est appuyé notamment le Conseil d'État, cette loi de 1986, pour dire bah non, la décision du tribunal administratif de Paris n'est pas valable, parce que ça ne contrevient en rien ni à cette loi, ni aux règles du CSA. Catherine L.
Oui, je pense que les médias, sous la pression sans doute aussi de tous ces observateurs, sont de plus en plus vertueux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils s'imposent des choses qu'on ne leur demande pas. Tout à l'heure, je parlais des débats où finalement on avait choisi de donner le même temps de parole, alors qu'on aurait pu ne pas le faire. Il y a beaucoup d'émissions politiques, notamment, je pense aux européennes, le dernier mois, où il va y avoir de fait une égalité de temps de parole entre les intervenants, alors que on pourrait être dans le système de l'équité. Donc je pense que les médias ont compris aussi, et vous le releviez très bien, évidemment qu'il y a ce côté suspicieux, comme diraient nos amis canadiens, des gens qui nous observent, et que les médias eux-mêmes prennent en compte ça. Alors, on peut jamais lutter contre toutes les suspicions, mais je pense que ce travail au sein des médias français, il est quand même de mieux en mieux fait, particulièrement bien fait.
Est-ce que c'est ce qui explique, par exemple, qu'une des journalistes de la chaîne, France Inter, Léa Salamé, a décidé de se mettre en retrait et de France Inter, aussi de l'émission politique de France 2, puisqu'elle est la compagne de la tête de liste socialiste Raphaël Glucksmann? Est-ce que c'était, non pas évidemment parce qu'il y avait des doutes sur sa capacité à continuer à être journaliste, mais parce qu'il y avait ce, disons, ce climat de suspicion qui fait que, quoi qu'elle fasse ensuite, ça aurait prêté le flanc à la critique?
Je pense que c'était une forme de protection pour elle et pour la chaîne, tout simplement. Parce que, comme vous le disiez, il n'y a aucun doute, je pense, sur le professionnalisme de Léa Salamé, qui a fait sa carrière de journaliste politique bien avant même qu'elle ne rencontre son compagnon. Mais néanmoins, on ne pouvait pas, à un seul instant, alors peut-être en plus en tant que média, service public, être dans une quête de l'interrogation d'un auditeur sur « mais est-ce qu'elle a posé la bonne question ? Est-ce qu'on a pris le bon invité ? Est-ce que ça, c'est impossible ?» Donc oui, cette décision partagée entre Léa et nous était indispensable.
Quand on a écrit un livre qui s'appelle « Le contact et la distance, le journalisme politique au risque de la connivence », Alexis Lévrier forcément s'intéresse à cette histoire-là.
En plus, ce livre devait porter à l'origine sur les couples entre journalistes et politiques. Moi, ce que je regrette à chaque fois, c'est que c'est la femme journaliste, au-delà des questions de genre, c'est vraiment le fait que ce soit le journaliste qui se mette au service de la carrière de son conjoint politique. Ça montre qu'on a une mauvaise image ou une image secondaire de la presse. Moi qui suis attaché aux médias et au journalisme, je trouve que Léa Salamé, qui fait une brillante carrière et dont vous le disiez, le professionnalisme est reconnu de tous, c'est dommage. Voilà.
Mais même si c'est pas forcément la femme, alors même si c'est le plus souvent dans ce contexte-là, mais il y a un journaliste à Radio France qui est l'époux de la ministre des Sports et qui s'est mise en retrait, qui ne parle plus des sports tant que sa femme est au gouvernement.
C'est bien que ça existe dans ce sens-là, mais bon, on voit bien que la règle, c'est toujours une femme journaliste et un homme politique, et la femme journaliste, c'est le modèle Anne Sinclair, c'est un peu similaire, puisqu'elle était beaucoup plus connue à l'époque que Dominique Strauss-Kahn, elle était la journaliste sans doute la plus connue de France, la plus reconnue aussi, et pourtant, elle a mis sa carrière entre parenthèses. Mais c'est là que je crois que dans la démarche de transparence, d'explicitation des critères qui font qu'on retient tel ou tel invité, il y a eu des maladresses. Tant pis, je ne serai pas invité sur France 2 ni sur France Inter, mais je voulais quand même le dire. C'est qu'on a dit notamment que la liste place publique, si Benoît Hamon n'était pas invité, c'était que la liste place publique représentait cette sensibilité politique. On a bien vu d'ailleurs que Raphaël Glucksmann est apparu très différent, très singulier, comme un intellectuel plutôt que comme un politique. Il a même dit qu'il n'était pas à sa place, qu'il se sentait... Et donc on voyait son profil comme étant très différent de celui de Benoît Hamon, qui est plutôt un politique, qui a fait toute sa carrière dans ce domaine. Donc après, les électeurs pourront se prononcer, pourront choisir. Mais je trouve que compte tenu du fait que Léa Salamé était l'animatrice de l'émission politique jusqu'à il y a peu, c'était maladroit de dire ça, parce que ça nourrit ce complotisme, cette suspicion, dont je suis persuadé qu'ils sont totalement infondés en l'occurrence. Mais voilà, les critères choisis, les justifications en tout cas données, à mon avis, n'étaient pas les bonnes.
Vous, Michel Léridon, qui présidez au CSA, ce groupe de travail droits et libertés, pluralisme et déontologie, qu'est-ce que le CSA a à dire sur ce genre de cas ? Ou à ne pas dire, d'ailleurs ?
Oui, a priori, c'est plutôt à ne pas dire. Là, en l'occurrence, je pense qu'on n'a pas, encore une fois, à nous immiscer dans les rédactions et à dicter ce qu'elles doivent faire. Bon, à titre personnel, j'ai pensé que c'était une sage décision de la part de Léa Salamé et de sa chaîne.
Parce que la déontologie fait partie de vos attributions, c'est-à-dire, ça veut dire quoi quand on préside un groupe de travail déontologie ? Ça veut dire que vous réfléchissez, vous surveillez le respect de la déontologie au Conseil supérieur de l'audiovisuel ?
Tout à fait, bien sûr, et les téléspectateurs ne s'y trompent pas, parce qu'il y a des milliers de saisines chaque année, notamment sur des questions de déontologie. Alors déontologie au sens très large, ça peut être y compris une blague peu appréciée, ou ça concerne seulement concerne l'information. Ça peut être aussi sur les émissions de variété, sur la télé-réalité. Donc c'est pas seulement la déontologie du journaliste, mais c'est aussi l'éthique dans les contenus.
Voilà, ce qui est assez cocasse d'ailleurs, c'est qu'il y a une émission qui est souvent la cible de signalement qui touche pas à mon poste, à laquelle participe comme chroniqueuse Christine Kelly, qui est une ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se chargeait des questions de pluralisme. Ça ne veut pas dire que vous allez rejoindre cette émission une fois que votre mandat sera terminé, Michel Guéridon. Qu'est-ce qui va se passer donc à partir du moment où la campagne va véritablement être lancée ? C'est-à-dire, est-ce que les règles vont ressembler pour les européennes à ce qui s'est passé pour la présidentielle en 2017 ? C'est-à-dire des règles assez strictes où il fallait avoir la même représentation entre les différents candidats selon des créneaux horaires particuliers. Je crois que c'était toutes les 8 heures.
Non, pour la présidentielle, c'est extrêmement resserré, extrêmement complexe et extrêmement contraint, on va dire, pour les chaînes. Pour les européennes, c'est le système que je vous décrivais plus haut, c'est-à-dire une équité plus générale et aussi un suivi très attentif, puisque la période, cette fois-ci, est concentrée sur 6 semaines, puisqu'elle commence le 15 avril, avant le démarrage de la campagne officielle proprement dite, et jusqu'au scrutin du 26 mai. Et avec des relevés que doivent envoyer les chaînes chaque semaine. Donc ça veut dire qu'il y a une veille, puisqu'effectivement si on attendait le lendemain du scrutin pour voir si tout se passe bien, ce serait un petit peu tard. Donc il y a un relevé chaque semaine sur tous les temps de parole des différents partis dans un premier temps et des différentes listes quand elles auront été déposées.
Alors dans une émission comme celle-ci, même si elle n'est pas examinée de manière singulière, non. Mais elle entre dans un ensemble qui est celui de la chaîne, mais comme on essaie d'avoir de respecter des équilibres émission par émission, ce qui est quand même beaucoup plus simple à gérer, on se retrouve, et je le constate à chaque fois qu'il y a des élections, à éviter d'inviter des politiques pendant les campagnes, parce que ça devient très compliqué à gérer. Est-ce que c'est aussi quelque chose à quoi vous pouvez être confronté dans certaines émissions de France Inter, Catherine Nel ?
Ce qui est le comble, mais même sur les chaînes de télévision, ce qui est le comble, puisque théoriquement, justement, c'est le moment où on doit être le plus à l'écoute des politiques, on va dire, pour que nos auditeurs téléspectateurs se fassent leur propre idée. Et c'est vrai que parfois, la contrainte fait qu'on évite ou que même on peut interdire parfois à telle ou telle émission de ne pas entrer dans ce cycle du rééquilibrage. Après, moi, je pense que rien n'est parfait et aucun système n'est parfait. Mais s'il n'y avait aucune règle, là, je suis absolument certaine que ça ne fonctionnerait pas du tout.
Donc, qu'est-ce qui se passerait sur France Inter s'il n'y avait aucune règle ? Il y aurait tout le temps les mêmes ?
Je ne sais pas s'il y aurait tout le temps les mêmes, parce que je pense quand même qu'on essaye de réfléchir et que donc on essaye de penser juste, donc de s'ouvrir... Mais je pense malgré tout que pour nous, ça serait moins aisé de compter, de calibrer. Mais comment ? Mais l'égalité, mais non pas l'égalité, l'équité. Enfin, donc ces règles, elles sont bien, je dirais, pour un système. Même si on peste, notamment quand on est dans une campagne présidentielle et que c'est extrêmement difficile d'équilibrer par couloir de programmation avec une égalité totale. C'est très difficile et vraiment, ce sont des calculs d'apothicaire. Même si on peste, moi, je suis pour les règles. Voilà, c'est toujours mieux.
Qu'est-ce qu'on risque si on ne les respecte pas, les règles, Michel Guéridon ? Si on ne les respecte pas du tout, disons.
Ben, personne ne s'aventure à ne pas les respecter du tout.
Imaginons. Mais,
sinon, il y a toute une échelle de sanctions, de mise en garde, puis de sanctions éventuelles. Mais en principe, les chaînes, finalement, connaissent assez bien le système. Je voudrais quand même signaler.
Elles n'ont pas forcément envie qu'il y ait une publicité sur leur nom pour dire qu'elles n'ont pas respecté les.
Voilà, exactement. Le pluralisme. Oui. Non, mais absolument. Il y a aussi une question d'image. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a par ailleurs une campagne officielle, et notamment l'audiovisuel public. Est concerné. Et là, pour le coup, il y a un accès de absolument toutes les listes, autant d'antennes et autant de paroles.
Un dernier mot, Alexis Lévrier, est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté un petit peu anachronique de ces règles dans un univers où il y a bien sûr la presse écrite, il y a la radio, il y a la télévision, mais il y a évidemment Internet, où le débat aussi se déroule de manière... peu régulé.
Oui, mais on voit tous les problèmes que ça pose et il suffit de regarder le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans la crise des Gilets jaunes qui ont alimenté les pires fake news, les pires rumeurs. Donc il faut de la régulation. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut des règles, il faut les améliorer, il faut les rendre transparentes, effectivement. C'est le meilleur moyen de lutter contre la suspicion et le complotisme. Ça sera jamais parfait, les médias. Il faut accompagner. Je n'aimais pas l'expression de Jean-Luc Mélenchon après une émission sur France 2 déjà, où il parlait de tribunal tribunal des médias, le CSA ou le futur conseil de déontologie, n'ont pas à jouer le rôle de tribunal. Il faut accompagner les médias pour leur permettre de mieux prendre en compte le pluralisme.
Voilà, gros chantier à venir, de toute manière, avec notamment une réforme de l'audiovisuel qui se prépare. On verra bien, elle sera son contenu. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, Catherine Nahel, Michel Léridon et Alexis Lévrier. Vous pourrez retrouver, évidemment, cette émission sur notre site internet, franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, page depuis laquelle vous pouvez également télécharger l'émission, nous écrire et retrouver d'ici quelques heures des extraits vidéo de chacun des invités. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Le Duo, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Émilie Vallard avec à la prise de son Audrey Guélil.